Cause I smoke lots of green.
Vous écoutez Radio Campus, il est 12h30.
Hey, tu connais les Barbouzes ?
Le film ?
Mais non, la blague.
Ah bah non.
Bah alors c'est l'histoire de mecs qui font une émission sur le multimédia.
Ah oui,
c'est le mercredi.
C'est ça ?
Ouais.
Et à quelle heure ?
Bah maintenant.
Eh oui, Composition Multimédia en direct comme tous les...
Mercredi.
Ouais, avec Mathieu.
Bonjour Gérald.
Eh ben absolument, bonjour aussi. Réalisé de main de maître par notre Anto National, qui va aujourd'hui nous faire un petit mix téléphonique, car...
Encore ?
Ouais, oui, ça car aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est assez triste dans le milieu du jeu vidéo, et je dirais même pour la culture vidéoludique. C'est, ça a été annoncé le 1er avril par le directeur de la chaîne, No Life s'arrête cette fois-ci définitivement.
Alors ça c'est fait, des c'est années... C'est terminé.
Des années et des années que c'était compliqué pour eux, ils avaient commencé il y a 11 ans. Et puis, malheureusement, ça s'est terminé. Le fait est que nous serons ça tous très, 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 très tristes. Oui. Toi, le premier, d'ailleurs, car tu étais fan, tu étais même allé...
Le premier, non, parce qu'il y a du monde avant moi, mais
oui,
je suis quand même très triste. Oui.
T'étais allé au...
J'étais à la soirée des 5 ans, voilà, et... 1000 personnes, c'était une soirée de folie. J'étais à Paris, dans une grande salle de spectacle.
Ouais.
Et c'est un très, très bon moment.
Parfait. Eh bien... Justement, pour en parler, qui de mieux placé, à vrai dire, que quelqu'un qui était là depuis les débuts de la chaîne ? Et il s'agit donc de Julien Pirou. Julien Pirou, qui était donc...
Allô,
est-ce que tu nous entends ?
Oui.
Ah, c'est parfait.
Problème de kit main libre, mais c'est bon. Je suis bien connecté.
Parfait. Donc, je disais que nous t'avons au téléphone. Donc, Julien Pirou, qui avait énormément d'émissions, à vrai dire, peut-être celui qui en avait le plus, hein, sur No Life.
Puisque...
Tu étais à la tête donc de Retro and Magic, également de la Minute du Geek, également
un six,
de 1D6, également de Crunch Time.
Ouais.
Ça faisait quand même beaucoup, beaucoup d'émissions. Et tu étais là surtout depuis les débuts de No Life. Alors, on va, outre le fait, il faut aussi dire aux gens que tu es également, enfin maintenant tu travailles chez Ubisoft, sur la licence Might and Magic.
Alors, j'ai travaillé sur la licence Might and Magic pendant un certain nombre d'années. Là, ça fait un an et demi que, en fait, j'ai rejoint le département éditorial d'Ubisoft pour travailler sur d'autres projets.
Oui, et tu n'as pas le droit d'en parler.
Exactement.
Bien évidemment. Alors, parlons de No Life. Bien évidemment, nous sommes tous très tristes que ça s'arrête. Pourquoi ? Mais parce que c'était une chaîne de qualité et surtout une chaîne entièrement dédiée à la musique japonaise. Certes, c'était un peu un prétexte, mais aussi surtout aux jeux vidéo. Et tu as été un artisan très important du succès, en tout cas. Alors, peut-être pas forcément le succès... pécuniaire de la chaîne, puisque si la chaîne s'arrête, c'est spécifiquement à cause de ça, mais le succès d'estime auprès des joueurs et auprès des professionnels du jeu vidéo, tu as été un de ces artisans-là. Alors, comment est-ce que toi, il y a 11 ans, tu es arrivé comme ça, avec tes petites valises, à faire des émissions sur No Life ?
Alors, en fait, il y a 11 ans, je travaillais pour une société qui s'appelle Kazé, qui est un éditeur de DVD, d'animation japonaise principalement. Mmh. Et en fait, j'avais rejoint l'équipe graphique de Kazé après avoir fini mes études en graphisme. J'avais été recruté dans le studio pour travailler sur les packagings, les interfaces DVD, ce genre de choses.
Oui.
Et dans l'équipe graphique de Kazé, il y avait aussi Davy Mourier, qui est devenu en fait directeur artistique de Kazé quand moi j'étais en stage là-bas. Et Didier Richard, qui était son comparse de Une case en moins.
Oui.
Et en fait, j'ai beaucoup sympathisé avec Davy puisqu'on allait acheter des comics à la pause déjeuner tous les deux chez Arkham Comics, pour ceux qui connaissent. Et on parlait de tout et de rien. Et à l'époque, alors ils avaient un projet, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais ils avaient un projet de faire des vidéos d'une case en moins pour un site de jeux vidéo, je sais plus lequel, très honnêtement.
Mm-hmm.
Mais à l'époque, il m'avait proposé de faire, c'était des vidéos de peut-être d'une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, et d'avoir à la fin de chaque vidéo un petit segment d'une ou deux minutes qui aurait été pour parler un peu de l'histoire du jeu vidéo. Et Davy avait proposé alors le nom La Minute du Geek.
Ah, déjà.
On avait tourné un pilote. Au final, ça s'est pas fait. Comme je disais, je me rappelle plus vraiment les détails. Mais quelques mois plus tard, Davy m'appelle et me dit, je suis pas censé t'en parler, mais il y a Alex Pilote et Sébastien Ruchet, voilà, que moi je connaissais pour avoir vu en tout cas Alex sur Game One,
bien sûr,
notamment
oui.
lors des nuits d'Alia.
Oui, parce qu'il et, faisait beaucoup de réalisations sur Game One, hein, il était très important. Hein.
Mais du coup, même si je ne le connaissais pas, ni lui ni Seb à l'époque, au moins je connaissais un peu son travail. On dit voilà, donc c'est top secret, mais ils sont en train de monter un projet de chaîne de télé complètement folle. Et je pense que ça aurait vraiment ta place sur cette chaîne pour raconter des anecdotes sur le jeu vidéo qui font chier tout le monde. Et moi j'ai fait, bah écoute, ok. Et puis quelques jours plus tard, Davy vient me voir complètement paniqué en disant « Bon, j'ai fait une boulette, j'aurais pas dû t'en parler. » En fait, maintenant, Alex et Seb, ils sont complètement paniqués. Il faut que tu viennes avec moi à Pocket Chami, qui était donc leur société, pour les rencontrer et tout, parce que du coup, j'étais censé vraiment parler à personne et maintenant, ils sont en stress parce qu'ils ne connaissent pas et tout. Donc voilà, dans ces circonstances un petit peu bizarres, je suis allé rencontrer Alex et Seb. Heureusement, le courant est bien passé et du coup... non seulement le concept, donc du coup, qui était la minute du geek, a été accepté pour sur No Life,
oui.
En plus de ça, Alex, qui cherchait quelqu'un pour refaire une émission sur le rétro gaming, qui était dans la lignée de Mémoire Vive que lui faisait sur Game One,
oui.
Et donc il avait déjà un nom qui était Retro and Magic parce que ça faisait les initiales RAM, qui était donc une blague avec Mémoire Vive.
Ah oui, je n'avais même pas tilté. Là. Bravo, on voilà, apprend des choses en retard. Hein.
Et donc, il avait ce concept-là, mais lui, il savait qu'il n'aurait pas le temps de s'en occuper. Mmh. Et en parlant avec eux, en parlant de jeux rétro, bah, du coup, il m'a proposé de faire cette émission. Donc, au final, voilà, je suis reparti de là avec non seulement la Minute du Geek et en plus Retro and Magic. Mais moi, j'étais très content parce que je trouvais ça super chouette comme idée.
Mais
c'était
surtout
en janvier 2007.
Janvier 2007, ah oui, en effet, c'était vraiment c'était le début, hein, on ne peut pas dire le contraire.
Avant les débuts.
Avant les débuts, oui, tout à fait. Alors, donc, d'avoir été, dès le départ, dans le bain de cette chaîne, est-ce que tu as pu voir, dès le début, mais j'imagine que oui, les difficultés énormes qui se dressaient devant Sébastien et Alex ?
Ben, dès le départ, il y avait un côté très... un peu fait dans son garage. C'est ouais. Pas un garage, mais il y avait des locaux qui étaient minuscules du côté de Picpus. Il y avait le plateau de tournage, c'était une petite pièce super mal insonorisée, donc on entendait les enfants à l'étage qui sautaient partout le soir qu'on en contournait, c'était une horreur.
Génial.
Le fond vert, c'était un mur qu'on n'avait pas en vert avec la peinture issue d'un magasin de bricolage. Ce qui se rapprochait le plus d'un verre pour ce type de
d'incrustation, oui.
D'incrustation, mais bon, ça avait clairement des limites.
Oui.
On avait une table qui était la table sur laquelle était posée l'ordi pour faire les saisies, mais que les gens prenaient pour aller quand ils faisaient Super Play ou autre, où ils avaient besoin d'une table dans le décor. Du coup, il y a des soirs où moi je venais faire des saisies et en fait, j'avais le clavier sur les genoux, parce que voilà, il y avait plus rien pour poser quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'était genre de choses. Et évidemment, les monteurs étaient à la cave. C'est une cave toute étriquée avec, ils entendaient la nuit les rats qui couraient dans les tuyaux. Enfin, c'était
mon Dieu.
Les premiers locaux de No Life. C'était vraiment cette ambiance-là. Donc, on a travaillé comme ça pendant un peu plus d'un an.
Difficilement, on va dire.
Disons en se marchant un peu sur les autres. Les autres
oui,
les autres,
c'est voilà. Pas faux.
C'était dans la bonne humeur, mais parfois on se sentait un peu à l'étroit.
Mais déjà à l'époque, l'équipe rédactionnelle était quand même assez restreinte. Vous étiez.
Oui, il y avait. Moi j'écrivais des critiques, Seb en écrivait aussi. Il me semble que Thierry Falcoz, je ne sais plus s'il était là vraiment dès le jour 1, mais il arrivait très très vite en tout cas.
Ouais.
Pour être vraiment le rédac-chef hein, de No Life. Et puis après, c'était un peu s'il y avait un monteur qui avait envie de faire une critique, qui s'en occupait, si Alex avait envie, voilà. C'était un peu selon qui était dispo, qui avait se sentait de parler de tel ou tel jeu parce qu'il connaissait déjà un peu la série. Et ça se faisait comme ça vraiment.
Mais toi, tu t'es mis à faire des critiques, mais c'était vraiment. Tu en faisais avant ou pas ?
Alors, pas vraiment. J'avais bricolé des fanzines et des choses comme ça Mais c'était, ça n'avait jamais vraiment été publié, c'était plus des sortes d'exercices pour travailler la mise en page, ce genre de choses, quand, oui, quand je faisais mes études. Mais du coup, j'écrivais des textes, j'aimais bien écrire. D'ailleurs, au final, je préfère écrire à faire du graphisme, c'est aussi pour ça que justement j'ai un peu changé de carrière.
Oui.
Et donc voilà, mais oui, c'était une expérience un peu nouvelle.
Alors, pour quelqu'un qui s'est lancé un peu par hasard dans l'histoire, tu as quand même été rédacteur de 480 Retro and Magic, si je ne m'abuse.
Un peu moins, parce qu'il y a un bug de numérotation sur Noco qui fait que, je crois, à un moment donné, ça passe de 460 à 470, sans qu'on sache trop pourquoi. Mais voilà, oui, entre 450 et 500.
Alors pour nos auditeurs, Noco, c'est la plateforme de téléchargement, enfin de streaming, en fait, voilà, de No Life, pour pouvoir revoir,
VOD,
ouais, de VOD, pardon, de No Life. Alors, à savoir, pour la petite anecdote, actuellement, il y a des gens qui sont un peu fans, qui ont pris des abonnements Noco pour télécharger la totalité de tes émissions, par exemple, pour pouvoir les garder. Alors, c'est aussi une question assez intéressante, c'est toutes ces émissions, tout ce contenu éditorial de qualité, hein, je le répète encore une fois, moi je suis quelqu'un qui est très à cheval sur les, la véracité des choses et puis on va dire la qualité de rédaction, et moi j'ai toujours eu un respect énorme pour ton travail parce que en effet tu as du talent, et je le dis pas par je le pense et je le dis pas souvent, donc
c'est vrai, je confirme,
c'est assez plaisant. Le fait est que tout ça, il faut que ça puisse être gardé. Alors déjà, j'imagine que l'INA a bien entendu les vidéos, mais est-ce que, alors c'est la question que beaucoup de gens se posent sur les réseaux sociaux actuellement, est-ce qu'il va y avoir des sorties de DVD? Est-ce qu'on va pouvoir avoir tout ça chez soi?
Alors, il faut comprendre que
Blu-ray, pardon.
Le concept des émissions, que ce soit le nom, l'habillage, la présentation, tout ça, appartient à No Life.
Oui.
No Life en tant qu'entreprise.
Oui.
Donc là, avec No Life qui part en liquidation, ça veut dire que, en fait, voilà, tout ça, le catalogue d'émissions, les concepts des émissions vont être mis en vente.
D'accord.
Donc, s'il doit y avoir une exploitation commerciale,
ce sera par les gens qui vont racheter, alors. Ouais.
Voilà, le ou les repreneurs qui décideront. Et évidemment, parce que par exemple, il faut comprendre que moi, pour prendre mon exemple, hein, j'ai cédé des droits à No Life de diffusion.
Oui.
Mais si une autre chaîne rachetait les émissions et voulait les rediffuser, forcément, moi, j'aurais à faire jouer mon droit à l'image, mon droit d'auteur.
Bien sûr.
Évidemment. Donc voilà. Il y a plus une crainte, je pense, que quelqu'un rachète.
Oui, et fasse n'importe quoi avec.
Le catalogue et, par exemple. De la même manière que, par exemple, Game One avait refait des rétro Game One avec Marcus,
oui,
qui reprenait toutes les saisies de jeux qui avaient été faites pour Mémoire Vive,
oui,
mais pas les textes, refaisait en fait une émission à partir de ce matériel visuel.
Oui.
On pourrait tout à fait imaginer qu'un repreneur, une autre chaîne, rachète les rétro and Magic, par exemple,
bien
et
sûr,
reprenne en fait les images, mais sans mes textes, sans ma voix, et un autre,
oui, pour éviter de te payer en fait des droits d'auteur.
Exactement.
D'accord.
Ça, c'est une possibilité.
Ouais.
Mais il y a aussi la possibilité qu'ils rachètent tout ça et qu'au final ils sachent pas quoi en faire et que ça dorme.
Oui, ou qu'ils l'exploitent aussi pour le sortir en DVD, parce que je pense que là c'est décidément en Blu-ray. Je suis pas du tout à la page. Heureusement que j'ai pas dit en VHS. Mais
il y a toujours DVD.
Il y a toujours une possibilité en fait que ce soit repris et pas forcément à bon escient, quoi. D'accord. Mais aussi il y a une possibilité que ce soit fait correctement.
Oui.
Mais en tout cas, ça ne sera pas du fait de Sébastien et Alex, quoi.
Bah, à moins qu'ils trouvent d'une manière ou d'une autre l'opportunité, les moyens de racheter eux-mêmes le catalogue.
Oui, c'est sûr.
Et je sais que voilà, c'est des choses évidemment auxquelles ils réfléchissent, mais est-ce possible? Ça, on verra. Ça, j'en ai aucune idée.
Alors, j'aimerais aussi aborder un point intéressant, parce que tu as eu clairement la confiance la pleine et entière de la chaîne, et c'est allé très loin, puisque, bon, moi, il se trouve que je suis aussi très fan de jeux de rôle, et de jeux de rôle sur table spécifiquement, et c'était quasiment la première fois, on va dire, hein, qu'il y avait des émissions qui parlaient de ça, qui traitaient de ça. C'est toi qui as amené le sujet, j'imagine, parce que tu es quand même très très fan de jeux de rôle sur table. Comment ça s'est passé?
Alors en fait, donc assez tôt dans l'histoire de la chaîne, moi j'ai pitché, comme on dit, une émission sur le jeu de rôle avec le nom Indécis.
Oui.
Et à l'époque, Honnêtement, j'ai fait un truc beaucoup trop ambitieux pour mon propre bien. Alex m'a dit, bon, bah voilà, en l'état, nos moyens, on ne peut pas faire cette émission de cette manière-là. Mmh. Par contre, il se trouve qu'il y a un autre présentateur qui s'appelle Docteur Lacave, oui. Qui faisait Eden Palace, qui a lui aussi pitché une émission sur les jeux de cartes.
Oui.
Est-ce qu'il ne serait pas malin d'en faire une seule et même émission où ça alternerait d'une semaine sur l'autre jeux de cartes et jeux de rôle?
Ah,
donc c'est ce qu'on a fait, et c'était double face. Donc voilà, et c'était aussi une petite blague entre nous, parce que les gens, encore à ce jour, nous confondent, Docteur Lacave.
C'est vrai, c'est vrai.
Et donc, le fait d'être tous les deux dans la même émission, on se disait, comme ça, les gens vont voir qu'on est deux personnes différentes quand même. Mais eh bien, pas tant que ça, en vrai.
C'est pas vrai. Ah, ils pensaient que c'était un trucage, peut-être.
Oui.
C'est incroyable, ça.
Je ne comprends pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on a fait cette émission, et puis ça a duré, je crois, une quinzaine de numéros, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Par la suite, moi, j'ai reproposé un des six, sous une forme un peu plus maîtrisée, on va dire.
Oui.
Et du coup, on a pu lancer cette nouvelle émission un peu plus tard pour justement reparler de jeux de rôle sur No Life. Mais,
C'est allé très loin, parce qu'à la fin de No Life, tu proposais même des parties de jeux de rôle filmées.
Tout à fait. Donc ça, c'était Roleplay, une émission dont je suis très très fier, qu'on a fait là au cours des deux dernières années. Et où en fait, c'est parti de... Bon, évidemment, l'envie de filmer des parties de jeux de rôle à la télévision, c'est quelque chose que moi je voulais faire assez vite. Mais c'était compliqué, on ne savait pas du tout comment on allait pouvoir filmer ça. Et c'est quand on avait fait une soirée spéciale sur Shadowrun.
Qui est un de tes chevaux de bataille, hein, il faut le dire.
Voilà, ça c'est mon coup de cœur.
Parce que pour que les gens, les auditeurs puissent comprendre, tu t'occupes également de divers blogs en fait, dont un sur les Image Moto, donc le créateur d'Albator par exemple,
voilà.
Et également un sur Shadowrun qui s'appelle la Fondation Draco.
Exactement.
Voilà.
Depuis 2004. Mm-hmm. Maintenant. Et donc du coup, on a fait une soirée spéciale Shadowrun parce que c'était, il y avait plein d'actu, des jeux vidéo qui sortaient, une nouvelle édition du jeu de rôle papier, voilà. Donc on a dit bon bah voilà, on va faire une partie filmée qu'on a pu faire dans les locaux de l'école 42, parce qu'on avait du coup cette espèce de grande salle façon hangar où on pouvait mettre une table au milieu et avoir une caméra qui tournait autour.
Et bien sûr,
c'était super. Mais du coup, alors on se dit ah bah voilà, maintenant on l'a fait, maintenant il faudra le refaire. Entre-temps, il y avait aussi, je crois que c'était les gens de Jeux de Rôle Magazine qui avaient proposé une émission, un pilote qui s'appelait Palimpsest,
oui.
Qui était filmer une partie de jeu de rôle.
C'est le magazine de Michael Louis, si je m'abuse.
C'est possible.
C'est le patron de la société Megara maintenant qui fait des livres dont vous êtes le héros interactif.
Et du coup, voilà, ils avaient proposé ce concept d'émission-là, et nous, du coup, moi, j'avais regardé ce qu'ils avaient fait, et je sais que j'avais trouvé ça, je trouvais que c'était trop long, en fait.
Ouais.
C'est bien fait, mais ça passerait beaucoup mieux sur Internet. Là, en télé, t'as une heure, deux heures de gens qui jouent
c'est compliqué,
sans illustration,
oui.
Sans tout ça. Au bout d'un moment, t'as envie de zapper, en fait, parce que c'est trop long.
Ouais.
Là où si t'es sur internet, si t'es un podcast, tu peux avoir ça en arrière-plan entre guillemets, c'est beaucoup plus facile à,
oui, tout à, fait,
à écouter, de mon point de vue.
C'est vrai aussi que le jeu de rôle ça se vit, hein, donc c'est compliqué à regarder. Il y a beaucoup de passages où il se passe rien, où les gens réfléchissent, où ils se regardent, où ils font des blagues, c'est assez compliqué, enfin ça dépend de qui tu as, mais généralement c'est un peu ça.
Voilà, et du coup... petit à petit, on a refait du jeu de rôle dans la soirée spéciale de l'indicible anniversaire de Cthulhu. Entre-temps, No Life avait déménagé dans les nouveaux locaux où il y avait une grande salle centrale qui lui permettait de faire des directs, des choses comme ça. Et on s'est dit, bon, bah là, avec ce plateau, on pourrait avoir une table de jeu de rôle parce qu'on a la place pour avoir plusieurs caméras autour et du matériel pour faire la réalisation en direct, comme ça on gagne du temps au niveau du montage derrière, ainsi de suite. On s'est dit, ok, bon, bah, c'est peut-être le moment de relancer cette idée-là, et c'est devenu roleplay, avec ce concept de dire, bon, bah, c'est la longueur des épisodes, c'est des épisodes d'animé, entre guillemets, c'est 20-22 minutes, et c'est découpé en saison, avec 13 épisodes par saison, ainsi de suite. Donc c'était voilà, on a essayé de proposer quelque chose qui puisse fonctionner pour le mode de consommation, on va dire, d'un téléspectateur de télévision.
Oui.
Je pense que c'était pas trop mal au final.
Mais enfin, j'atteste. J'atteste de cela. Non, puis en plus, c'était quand même quelque chose d'assez c'est même très innovant. Ça allait dans une sous-culture qui n'est jamais montrée à la télévision, très clairement. En fait, vous avez fait tout ce que les chaînes de télévision ne peuvent pas montrer. Pourquoi ? Parce que le jeu vidéo, en fait, tout ce qui est annexe, ça prend des parts de marché à la télévision, bien évidemment. Parce que pour brancher une console, il faut une télévision, généralement, une console de salon en tout cas. Et quand on joue à la console, on ne regarde pas la télévision. Et parler de ça, finalement, c'est un petit peu scier la branche sur laquelle on est assis. Et c'est pour ça aussi que les grandes chaînes de télévision ont supprimé toutes leurs émissions, comme à l'époque Micro Kids, quand on était gamin, parce que c'était contre-productif pour eux. Et vous alliez justement dans tout le contraire, toutes les sous-cultures qui demandaient aux gens, finalement, de ne pas regarder la télévision. Et c'est vrai que c'est assez ardu et c'est assez... c'est volontaire comme idée. Je trouve ça hyper intéressant parce que au moins vous aviez une sorte de c'est la cause quoi, voilà, c'était la cause qui primait. On sentait bien que c'était pas fait pour gagner de l'argent à outrance, c'était loin d'être le cas. Mathieu a eu la chance d'aller aux 5 ans de No Life et c'est une soirée dont il se souvient encore, n'est-ce
tout
pas
tout à fait, une super soirée et c'était impressionnant de voir la volonté de se battre jusqu'à la fin et de voir qu'ils étaient tout heureux d'arriver jusqu'à 5 ans déjà et pas savoir s'ils arriveraient jusqu'à 6 ans, c'était vraiment c'était impressionnant et que ça ait tenu 11 ans.
Oui, parce que c'était un peu l'Arlésienne. Finalement, on se demandait quasiment depuis le début quand est-ce que ça allait s'arrêter.
C'était
terrible.
Blague, quoi.
C'était terrible. Ouais. Et de voir qu'il y a eu assez de volonté pour arriver à tenir 11 ans, moi, je trouve ça absolument fabuleux. Ne serait-ce que parce que je sais pertinemment le temps que ça prend et ce que ça demande aussi au niveau personnel. Et je pense que Sébastien et Alex, particulièrement, David aussi et d'ailleurs.
Ils ont tout donné.
Ils ont tout donné. Ils ont donné tout leur temps, je pense quasiment leur vie pour cette émission et pour les gens. Alors, je sais que tu es un grand timide, c'est peu de le dire. D'ailleurs, pour les auditeurs, on le dit, c'est la première fois que tu fais une interview radio.
Oui, oui. En fait, c'est rarement moi qu'on interview.
C'est bien dommage.
Merci, ça me fait plaisir.
Non, mais c'est normal. Et je voulais savoir simplement, parce que comme la télévision, c'est un média d'image, alors je ne sais pas si, on parlait de Dr Lacave tout à l'heure, il est parti après No Life, mais comme ce week-end, par exemple, il était sur un événement, il faisait des dédicaces, etc. Est-ce que toi, alors je ne sais pas si tu fais des événements où tu dédicaces, je ne crois pas.
Si.
Ah, pardon, autant pour moi.
J'en fais quelques-uns. En fait... Si on m'invite et que je n'ai rien d'autre de prévu, oui. J'essaie d'y aller.
Sens l'invitation arriver.
Non, ça, il est certain qu'on va t'inviter. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Pouvait pas, mais le fait est que ce sera avec plaisir, bien évidemment. Mais le fait est que...
D'ailleurs, on parlait de la soirée des 5 ans de No Life. Il faut savoir que moi, j'y étais pas parce que j'étais au Lyon Geek Show ce week-end-là. parce qu'en fait, vous m'avez invité au Lyon Geek Show avant que Alex et Seb ne dévoilent leur plan pour l'anniversaire.
Ah, même à toi, il ne te le disait pas.
Et voilà, c'est l'inconvénient parfois d'être en fait un externe à No Life, c'est pas être un salarié de la chaîne,
oui.
Où on découvre un peu tard en général ce qui se prépare. Et donc un jour, Alex me dit « Ah, mais tu seras là, bien sûr, je sais plus quand c'était, pour la soirée anniversaire, parce qu'en fait, on va faire ça sur une scène et tout. » Je fais « Bah, Alex, je suis désolé, mais moi, ça fait 3 mois que j'ai dit au Lyon Geek Show que je venais, quoi.
» Oui, tu peux pas te retirer comme ça.
Voilà, et moi je suis pas du genre à annuler à la dernière minute auprès de qui je me suis engagé.
C'est tout à ton honneur.
Donc j'ai juste fait une petite vidéo et puis voilà.
Je voulais savoir si, étant donné que tu étais un petit peu timide, mais bon, t'es pas non plus timide à outrance, mais c'est
en
pas facile. Est-ce que c'était pas compliqué au début, les rencontres avec les gens, les gens qui voulaient absolument te voir, peut-être faire des photos ou des dédicaces ou des autographes.
En fait, pas tant que ça,
parce qu'on te prenait pour la cave déjà.
Finalement, dans la minute du geek en particulier, j'incarne un personnage qui est cette espèce de professeur geek un peu je sais tout,
sérieux,
qui tape sur les nerfs de certaines personnes d'ailleurs, mais ce que je comprends hein, parce que c'est un peu le but. Et du coup, je joue un peu ce personnage là aussi. Ça me permet de mettre une distance en fait.
Oui, bien sûr.
Je sais pas comment dire.
Oui, je comprends.
Et donc, c'est plus facile de rencontrer les gens et tout. Même si, quand je rencontre des gens qui sont fans de la chaîne en dehors de ces occasions-là, des conventions et tout ça, je sais jamais trop où me mettre, en fait. Je suis toujours un peu pris de court quand des gens dans le métro ou dans le tramway me reconnaissent, ou dans la rue parfois, c'est rare, mais ça arrive. En général, je sais pas du tout quoi dire, à part oh, merci, voilà, mais les gens semblent toujours un peu déçus parce qu'ils espèrent une grande conversation et tout, et moi je suis un peu là, alors, je sais pas quoi dire de plus.
C'est très drôle parce qu'en même temps que tu dis ça, Mathieu est en train de me montrer une photo qu'il avait pris de toi à la Gamescom quand on s'est vu, et t'es en train de faire le signe du démon avec tes doigts, et ça nous fait marrer parce que finalement t'es excessivement cool et accessible, donc c'est très drôle que tu nous dises que t'essayes de prendre de la distance. C'est intéressant de voir comment ça se gère aussi au quotidien. J'imagine que ça va te manquer. Il nous reste 2 minutes pour finir l'émission, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à faire du rédactionnel?
Alors, là, à l'heure actuelle, faut savoir que comme moi, je faisais No Life en marge de mon vrai travail.
Oui.
Donc, c'était beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends passés à faire des saisies, à écrire, à préparer des émissions.
Pas trop dur à gérer pour la famille?
Parfois, les monter et tout. Ma femme est très tolérante, donc elle n'a pas voulu.
Bravo.
Mais c'est vrai que c'est aussi l'occasion un peu de souffler, de se reposer un peu, de jouer à des jeux vidéo auxquels j'ai pas le temps de jouer. et voilà. Mais par contre, oui, je me connaissant, d'ici quelques semaines, je vais commencer à m'ennuyer. Donc j'ai plein de projets, des choses que j'avais mis un peu de côté pendant ces années, pour justement me consacrer plus à No Life, que je vais pouvoir sortir un peu des placards et des choses dont je peux pas encore parler, mais qui devraient se faire et qui vont être assez cool. Mais par contre, et c'est un truc qu'on me demande souvent, c'est est-ce que tu vas refaire la même chose finalement sur YouTube, sur Twitch ou autre?
Non.
Ça, c'est pas l'ordre du jour parce que ça me botte pas plus que ça. Et puis, après 11 ans à la télé, sortir un peu des écrans, ça me paraît pas forcément une mauvaise chose non plus.
Ouais,
au moins pour un temps.
Bah écoute, en tout cas bravo, bravo et merci pour ces 11 ans, parce que
merci,
je pense
beaucoup.
Que tu as été un des artisans les plus importants de cette chaîne et surtout avec un travail toujours de qualité. Alors avec Mathieu, on va tout simplement penser à tous ceux qui ont fait cette chaîne, à toi, et puis on va
merci
vous applaudir.
Sébastien, Alex, bravo.
Voilà, c'est bête, c'est peut-être un petit peu désuet, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour vous. On peut faire que ça, mais au moins on le fait, quoi. Voilà.
En espérant que tout le monde puisse rebondir et repartir sur de bons projets.
Tout à fait, et puis que ce soit pris par des gens compétents, dirons-nous, pas forcément ou dans l'ongle. Très bien, merci beaucoup Julien Pirou, donc, qui nous a fait la gentillesse de nous avoir au téléphone pour parler de No Life et de ses 11 ans de carrière. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne journée.
Bonne semaine.
Voilà, à la semaine, et on vous en dira plus.
On en saura plus.
Absolument.
Campus, partenaire du Cirque Festival du 3 au 30 avril dans la métropole dijonnaise. Depuis 2 ans, le Cirque fait danser la métropole dijonnaise au rythme des musiques électroniques dancefloor. Pour cette 3e édition, pas moins de 9 événements sont prévus. Pour danser le jour, la nuit, en soirée et en journée, dans des lieux atypiques et sur différentes esthétiques musicales. Cette année, The Driver, a.k.a. Manu le Malin, Sonia Mounir, les Chetan Brothers, James Dean Brown, DJ Feeds, Phil Wicks et bien d'autres que vous retrouverez du côté du cellier de Clairvaux, à la vapeur, au boulodrome, à la péniche cancale ou encore, et c'est une première, à l'aéroport Dijon-Bourgogne. Plus d'infos sur riskparty.com. Des places à gagner à profusion pour les événements du Cirque Festival tout au long d'avril dans Réveil Campus, la matinale du 92.2. Le Cirque Festival organisé par RISC, du 3 au 30 avril à Dijon et dans l'agglomération.